Le site RFI.fr. Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Il est 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel, l'antenne vous appartient jusqu'à 10h heure de Paris, 9h en TU avec dans un instant évidemment, comme tous les matins, vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe, hein, c'est l'occasion pour vous tous de nous rejoindre pour poser vos questions afin de mieux comprendre les différents sujets que vous entendez tout au long de la journée sur l'antenne des RFI. Donc si vous souhaitez des repères pour mieux décrypter l'actualité, vous nous rejoignez un seul numéro de téléphone, le 01 53 92 64 40. Évidemment, si vous êtes à l'étranger, vous composez d'abord le 33 1 suivi du 53 92 64 40. Et puis dans 30 minutes, en deuxième partie, nous reviendrons sur la campagne électorale aux États-Unis. Vous savez que c'est la dernière ligne droite. Nous sommes maintenant à 8 jours du scrutin et tous les sondages sont unanimes. Barack Obama est en tête dans les intentions de vote. Reste à savoir évidemment si les enquêtes d'opinion disent vrai, car n'oublions pas, et on a tendance parfois à l'oublier, que lors des primaires démocrates, eh bien les sondages donner tout de même l'avantage à Hillary Clinton. En tout cas, à l'étranger, les sondages sont constants. Barack Obama reste le grand favori, comme le démontre cette dernière enquête réalisée il y a quelques jours en Europe. 78% des Français, 72% des Allemands ou encore 68% des Espagnols souhaiteraient voir élu le candidat démocrate. Vos commentaires nous intéressent. Là aussi, toujours le même numéro de téléphone, 01 53 92 64 40. Nous passons donc au standard avec une première question. Karim, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI, Karim. Vous nous appelez de Conakry et vous avez des questions concernant l'OPEP.
Oui, exactement, monsieur Juan. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie, allez-y, nous vous écoutons.
Ma première question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi l'OPEP veut-il réduire la production journalière du baril de pétrole. La deuxième, quels avantages vont-ils en tirer? Comment font-ils pour réduire la production journalière, monsieur Wallace?
Bah restez en ligne, surtout ne raccrochez pas puisque Dominique Bayard est à mes côtés. Bonjour Dominique.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous signez tous les jours la chronique des matières premières sur RFI. Alors effectivement, l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, s'est réunie vendredi dernier en urgence et là décidé de réduire sa production quotidienne d'1,5 million de barils, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bien écoutez Karim, c'est très simple. L'OPEP réduit sa production de pétrole dans l'espoir de faire remonter les prix du pétrole puisque les prix s'effondrent depuis le début du mois de juillet, vous vous souvenez, le baril valait 147 $ le 11 juillet. Il en vaut aujourd'hui moins de 65 $, 62 $ vendredi à Londres à la clôture pour le Brent, 64 $ pour le West Texas Intermediate à New York. Le prix du pétrole baisse depuis 3 mois et surtout, il n'arrête pas de baisser. Alors l'OPEP réunit un cartel de pays producteurs, il représente 40% de l'offre. Donc,
40% de la production mondiale. Hein.
40% de la production mondiale, donc ils ont quand même un pouvoir d'influence sur ce marché. S'ils réduisent leur offre, on peut espérer que les prix remontent. Du moins, c'est leur espoir, puisque pour ces pays, eh bien, le pétrole, c'est la principale source de revenus. Bien souvent, c'est la source d'impôts pour financer le budget de l'État. Après ces 4 ans de hausse, certains se sont habitués à concevoir le budget de l'État avec un pétrole cher.
Alors, quels avantages peuvent-ils tirer maintenant avec cette réduction drastique de la production quotidienne?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est difficile de le dire parce que, pour l'instant, leur annonce ne marche pas. Vous voyez ce qui s'est passé vendredi. Ils annoncent qu'ils réduisent leur offre de 1,5 million barils par jour et le marché continue à plonger. Aujourd'hui, le marché continue à plonger. Il est préoccupé par autre chose, la crise financière dont on parle quasiment dans tous les journaux, sur de radio, télé et autres. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas et ça pourrait même être néfaste à court terme à la santé de leurs économies puisqu'ils vont vendre moins de pétrole à un cours moins élevé. Mais avec la décision de l'OPEP, il y a un effet psychologique qui peut être immédiat sur le marché. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Et puis, il y a un effet réel qui intervient plus tard, c'est-à-dire à partir du moment où la décision entre en vigueur, entre dans les faits. Et là, on se rend compte, bah oui, l'OPEP produit moins. Et puis, entre-temps, bah, peut-être que la demande va repartir. Et hop, les prix pourraient
se Et la décision, en tout cas, prise vendredi dernier à Vienne, entrera en vigueur le 1er novembre. Hein.
Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est pour répondre à votre troisième question, Karim, quand vous nous demandez comment s'y prennent-ils exactement pour réduire leur production. Mais écoutez, c'est très simple. Chaque pays s'engage à fermer les vannes. On apprend que l'Arabie Saoudite, par exemple, premier producteur, premier exportateur au monde, c'est le pays qui a vraiment un poids réel au sein de l'organisation et même sur le marché pétrolier en général. L'Arabie réduira sa production de 466 000 barils par jour, c'est-à-dire qu'elle assume le tiers de la baisse de 1 million.
Donc c'est proportionnel à la production de chaque pays.
Voilà, au quota attribué à chaque pays. Mais si vous me laissez encore une minute,
je crois,
d'accord.
Temps qu'il faut.
Mais bon, écoutez, là, c'est, ça paraît très simple, et c'est ce qui se dit officiellement. Après, chacun fait un peu ce qui lui plaît dans son coin. Alors, les décisions du cartel ne sont pas toujours suivies d'effet. Il y a des sociétés qui passent leur temps à traquer un petit peu les tankers pétroliers sur les mers pour voir si effectivement il y a moins de tankers qui quittent ces pays ou pas. Donc, on verra seulement d'ici quelques mois si la décision a vraiment est vraiment entrée en vigueur réellement.
Ouais, Karim, est-ce que c'est plus clair?
Vraiment, c'est très bien clair. Je vous remercie, M. Wan. Vraiment, je vous remercie.
Bah, merci surtout à Dominique Bayard qui est venu vous répondre. Dominique, on peut vous écouter évidemment tous les matins sur l'antenne d'RFI et puis lire vos chroniques des matières premières.
Et je reviens quand vous voulez.
Sur internet, rfi.fr. À très bientôt. Merci beaucoup, Dominique Bayard. Il est 9h17 à Paris. Nous repassons au standard avec d'autres questions. 01 53 92 64 40. Mohamed, bonjour.
Alors bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI, Mohamed. Vous êtes à Niamey, au Niger, et vous avez, vous, des questions concernant la colère des magistrats en France.
Oui, Rouane, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs des RFI. Moi, je voulais savoir la base, c'est la cause de la grogne des magistrats et avocats et tout le monde de la justice en France. Savoir exactement quelle est l'atmosphère exactement aujourd'hui.
Et atmosphère tendue, hein, on l'a vu d'ailleurs jeudi dernier lors de cette journée de mobilisation organisée par les magistrats de France qui sont assez mécontents de la politique de Rachida Dati. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan, bonjour Mohamed.
Alors on parle des magistrats, Mohamed a également parlé des avocats, des surveillants de prison, ils sont tous en colère. Que se passe-t-il exactement?
En fait, il s'agit de 15 mois d'incompréhension avec la garde des Sceaux. Alors si vous voulez, on va essayer de rappeler les polémiques avec Rachida Dati. Que reproche le monde de la justice à leur ministre? Eh bien, Mohamed, beaucoup de choses. Et peut-être en premier lieu, en fait, les magistrats, essentiellement, hein, c'est eux qui mènent la fronde, reprochent-ils à leur ministre de n'être pas du sérail? En fait, ils n'ont jamais vraiment accepté cette femme qui est issue de l'immigration, qui est un symbole voulu par Nicolas Sarkozy. Il lui reproche son manque de compétences, sa mauvaise gestion des dossiers. Alors, c'est un petit peu en inventaire là, Prévert. Hein. Son ton cassant, autoritaire, ou encore sa surexposition dans les pages people des magazines. En fait, depuis 15 mois, ça ne fonctionne pas entre eux et leur ministre. Par exemple, dès les premiers jours où Rachida Dati entre à la chancellerie Place Vendôme, eh bien son directeur de cabinet, Michel Dobkin, qui est une figure de la magistrature, démissionne, soi-disant pour convenance personnelle. En fait, on a tout de suite compris qu'il ne s'entendait pas avec sa ministre. Et dans la foulée, une dizaine de collaborateurs quittent la Place Vendôme. On peut souligner que cela arrive quand même rarement dans un cabinet ministériel.
La Place Vendôme, c'est là où se trouve à Paris
le ministère de la justice hein, ouais. Voilà, qu'on appelle encore la chancellerie. Donc je le disais, Rachida Dati, qui a la réputation d'être brutale avec les fonctionnaires de la justice, par exemple, elle n'hésite pas à convoquer les procureurs, les magistrats qui n'appliquent pas avec zèle les fameuses peines planchers. Mais c'est la même chose avec le personnel pénitentiaire. Dès que quelque chose ne va pas à sa convenance,
Ils sont convoqués,
etc. Ça ne fonctionne pas comme ça d'habitude, en tout cas, à la chancellerie. C'est un petit peu nouveau, et les gens ont du mal à s'y faire.
Donc ils craignent pour leur indépendance, finalement.
Complètement. En tout cas, quand on parle des magistrats, c'est ce qu'ils reprochent. En premier lieu, par exemple, ce qui a mis le feu aux poudres dernièrement, c'est la convocation en pleine nuit d'une magistrate qui avait signé l'incarcération d'un mineur qui s'est suicidé dans sa cellule, le 6 octobre dernier. Là, pour les magistrats, en fait, Rachida Dati, qui a toujours été très ferme avec les mineurs délinquants, d'un seul coup se dédouane en disant, s'empresse de reporter la faute sur les magistrats, en disant cette incarcération était injuste. Alors, un, les magistrats disent vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire ça c'est notre indépendance, c'est à nous de décider savoir si cette personne doit aller en prison ou pas, et deuxièmement, vous nous lâchez puisque vous faites des nouvelles lois extrêmement dures pour les mineurs, vous voulez qu'on les applique, une fois qu'on les applique, vous nous lâchez. Donc ça a mis le feu aux poudres, une véritable véritable front. Vous le disiez la semaine dernière, le personnel de la justice sur les marches des palais de justice de France et de Navarre, ça fait un peu désordre. En tout cas, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a bien pris conscience du malaise, puisqu'il va recevoir
aujourd'hui, hein,
tout à l'heure, à midi, l'Union syndicale de la magistrature, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, effectivement, c'est, encore une fois, du jamais vu. D'habitude, c'est le ministre lui-même qui reçoit les syndicats, et pas le chef de l'État.
Ouais. Mohamed ?
Oui ?
Aniamé, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, je suis satisfait.
Bien.
Oui, merci.
Bonne journée, merci à vous de nous avoir contactés. À bientôt. Franck Alexandre, merci d'être passé. Au revoir. 01 53 92 64 40. Vous nous rejoignez pour toutes vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre l'actualité. Chrétien, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, vous avez-vous une question concernant l'enlèvement, il y a quelques semaines maintenant, d'un opposant équato-guinéen au Cameroun?
Oui. En effet, nous avons appris sur RFI l'arrestation d'un opposant et ex-colonel équato-guinéen, alors réfugié au Cameroun. J'ai quelques questions. Qui est-il? Pourquoi a-t-il le statut de réfugié politique au Cameroun?
Alors, on va déjà effectivement répondre à ces questions. C'est vrai que cette affaire défraie la chronique au Cameroun. Nous retrouvons sur place notre correspondant permanent, Emmanuel Dabzak. Bonjour.
Allô. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue sur l'antenne, Emmanuel. Alors, effectivement, on en parle beaucoup, ça défraie la chronique. Beaucoup d'articles dans la presse camerounaise sont consacrés à cette exfiltration d'un opposant équato-guinéen, alors qu'il bénéficiait effectivement, comme le disait à l'instant Chrétien, du statut de réfugié politique. Qui est cet opposant ?
Alors, on parle du colonel Cipriano Nguemamba. C'est un homme qui était réfugié politique au Cameroun depuis l'année 2004. Alors, pourquoi s'est-il réfugié au Cameroun en 2004 ? Parce qu'il était poursuivi dans son pays pour une tentative de coup d'État à laquelle il était associé. Il n'était pas seul à la mener. Il y a eu beaucoup d'officiers qui ont été, à cette époque-là, une centaine d'officiers mis en cause dans cette tentative de coup d'État. Donc, il a réussi à fuir son pays avant de pouvoir être inquiété par la justice. Ce monsieur qui était colonel était également payeur général, il s'occupait des salaires à l'armée, il a donc pu partir avec de l'argent, il a emporté tout l'argent qui était destiné à la paye d'une partie du personnel militaire. Il a réussi à fuir donc en 2004 avec 500 millions de francs CFA, il a réussi à arriver ici au Cameroun, vous savez que les deux pays sont voisins, ont une frontière commune, et donc il a ici sollicité un statut de réfugié politique qui lui a été accordé par le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc ce monsieur est un réfugié politique vivant au Cameroun à partir de l'année 2004. Il est jugé ensuite en 2005, en son absence, par contumace, et il est condamné à cette époque-là à 30 ans de prison, donc par la justice de son pays, pour cette tentative de coup d'État. Et il vit donc au Cameroun depuis 2004, en ayant une protection, bien évidemment, qui lui est accordée par ce statut de réfugié politique. Normalement protégé.
Voilà. Chrétien, voilà pour vos deux premières questions. Vous en aviez d'autres, hein, sur cette affaire.
Oui, la troisième, quelles conséquences au-delà du HCR entre le Cameroun, pays d'accueil du réfugié, et la Guinée équatoriale?
D'abord, avant de répondre à cette question, on va tout de même replanter un tout petit peu le décor, Emmanuel Blazac. C'est vrai qu'on a déjà parlé de cette affaire sur l'antenne d'RFI, mais rappelons pour tous ceux qui nous écoutent que ce seraient deux policiers camerounais qui auraient enlevé donc cet opposant il y a quelques semaines au Cameroun. Hein.
Voilà, il y a trois semaines, les faits se sont déroulés dans le week-end, à la fin de la première semaine du mois d'octobre. Ce monsieur a été approché par deux policiers. Alors, il y a plusieurs versions, parfois même contradictoires, qui circulent quant à la façon dont le colonel a été approché et ensuite enlevé. Évidemment, lui, il ne peut pas confirmer les faits. Puis les deux policiers, eux, qui ont procédé à l'arrestation, sont en prison. Ils vont répondre devant la justice de l'arrestation illégale d'un opposant qui bénéficie d'un statut qu'il protège et qui, normalement, l'empêche d'être comme ça enlevé et ramené dans son pays d'origine, où, bien sûr, ses jours peuvent être menacés. Alors, on dit que le monsieur a été approché pour une histoire de vente de voiture. Enfin, les faits, là, ne sont pas complètement établis. En fait, ce que l'on sait, c'est que avec certitude, c'est que ces deux policiers camerounais auraient été approchés par des membres du personnel diplomatique de l'ambassade de Guinée équatoriale ici à Yaoundé, des membres de services de renseignement, on peut parler presque comme d'une histoire d'espionnage. Hein. Ouais. Ces deux policiers ont été approchés pour un prétexte fallacieux. Eux ont été appâtés par un gain facile, puisqu'on parle d'une récompense de 15 millions de francs CFA qui a été donnée aux deux policiers afin qu'ils puissent procéder sous un prétexte fallacieux à l'arrestation du colonel et ensuite le livrer à des membres de l'ambassade de Guinée équatoriale qui l'ont donc récupéré et qui l'auraient, dans un délai très court après l'arrestation, dans les 2 jours, on suppose, transféré immédiatement en Guinée équatoriale. Et on sait maintenant que grâce à des membres de l'opposition en Guinée équatoriale et des gens aussi qui travaillent dans l'administration pénitentiaire et qui ont parlé sous couvert de l'anonymat, que ce colonel Cipriano Ngemamba se trouve à la prison de Malabo, la prison Black Beach, c'est un grand pénitencier, où il serait donc détenu depuis le début de l'affaire, c'est-à-dire 2 jours après son enlèvement.
Détenu donc pour purger sa peine de prison, 30 ans de prison, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. En deux mots, en quelques mots, Emmanuel Dabzak, les conséquences de cette exfiltration dans les relations entre la Guinée équatoriale et le Cameroun?
Alors, si vous me le permettez, j'aimerais juste préciser peut-être une chose qui accrédite cette thèse de l'enlèvement qui a été au départ prise avec caution par certains en se disant est-ce que c'est possible ou pas que deux pays, ou en tout cas que la Guinée équatoriale puisse procéder à des activités de ce type sur le territoire d'un autre pays. Alors, oui, c'est possible dans la mesure où déjà 2 autres officiers de la Guinée équatoriale, 2 ex-officiers supérieurs de l'armée, ont été enlevés, eux, au Nigeria en 2005. Ils avaient été emmenés dans la nuit, dans la foulée de l'enlèvement, en Guinée équatoriale, où ils sont là condamnés à de lourdes peines de prison et qu'ils purgent actuellement, eux aussi, au pénitencier de Black Beach à Malabo. Alors, quelles sont les incidences que cette affaire peut avoir sur les relations entre les deux pays? On s'en doute, c'est très délicat pour le Cameroun, qui se retrouve malgré lui accusé d'avoir violé une convention internationale sur la protection des réfugiés, vraiment malgré lui, puisqu'il n'y avait pas de volonté ici, de la part du gouvernement, de violer ces accords internationaux et ces traités qui portent sur la protection des réfugiés politiques. Alors évidemment, le gouvernement camerounais a officiellement protesté en demandant des comptes aux responsables, ou en tout cas à l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun. Et on le sait, la Guinée équatoriale a du mal à reconnaître cette affaire. Oui. Il y a eu des déclarations officielles de fait en Guinée équatoriale, et notamment le porte-parole de la présidence qui a dit qu'il n'était pas du tout au courant de cette histoire et qu'il n'avait jamais entendu parler de l'enlèvement d'un ressortissant équato-guinéen sur le sol camerounais. Oui. Et ensuite que cet homme-là serait maintenant détenu en Guinée équatoriale.
C'est-à-dire que les autorités camerounaises et les autorités de Malabo nient donc de part et d'autre être impliquées dans cette affaire. Merci Emmanuel Dabzak. On remercie évidemment Chrétien qui nous appelait de Niamey. Abdoul nous rejoint. Bonjour Abdoul.
Oui, ça va.
Okay. Abdoul ?
Oui.
Bonjour, vous êtes sur l'antenne des RFI, vous nous appelez de Bamako, vous avez une question concernant le football. Et voilà, ce sont les aléas du direct, ça vient de couper. C'est dommage, Abdoul avait une question concernant la mauvaise prestation. Hein, Abdoul est avec nous. Abdoul ?
Oui.
Ah voilà,
oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez une question concernant la participation, la prestation des Français dans la Ligue des Champions ?
Oui, la France n'a gagné qu'une seule fois en 93, et cette saison, les clubs français sont mal partis. Pourquoi le club français ne parvient pas à s'imposer sur la scène européenne?
Ah, bonne question. Laura Martel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Abdoul.
Laura Martel du service des sports. Alors c'est vrai que bon, l'Olympique de Marseille est en très mauvaise passe. Ça peut aller pour Bordeaux et pour Lyon, mais que se passe-t-il d'abord pour Marseille? Pourquoi ces échecs répétés?
Oui, donc on va le rappeler, il faut terminer dans les deux premiers hein, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et effectivement, Marseille, pour Marseille c'est un peu foutu. Pour Bordeaux il y a encore des chances. Mmh. Lyon est la meilleure chance française. Il faut dire que pour gagner cette Ligue des Champions, il faut d'abord 2 grands joueurs et un effectif assez conséquent. Pourquoi un effectif assez conséquent? À cause du calendrier, d'abord. Il faut savoir, par exemple, qu'entre la 3e et la 4e journée de Ligue 1, par exemple en France, 3 journées de championnat français seront jouées. Donc, il est nécessaire d'avoir beaucoup de joueurs pour pouvoir les faire tourner, pour qu'ils ne soient pas trop fatigués, notamment au niveau des attaquants. Et c'est là que le bas blesse hein, pour les Français et notamment pour l'OM. On va dire qu'en pointe, l'OM n'a à peu près que Mamadou Niang. Hein. Après, ce sont des milieux, mais pas de deuxième attaquant. Alors que, par exemple, à Barcelone, vous avez Samuel Eto'o et Thierry Henry, ou alors à Chelsea, Drogba, Anelka et Kalou. Et donc, les clubs français sont assez dépourvus d'attaquants et n'ont pas assez de joueurs. Et le problème, le nerf de la guerre,
c'est l'argent.
C'est l'argent, évidemment. Évidemment, l'argent, parce que les clubs anglais, par exemple, ont 265 millions d'euros de budget. Les clubs français, plutôt autour de 96. Du coup, ils ne peuvent pas s'offrir les gros joueurs européens comme Drogba ou Eto'o. Et du coup, il est bien sûr bien plus difficile de s'imposer pour eux.
Merci beaucoup Laura Martel d'être venue répondre rapidement à Abdoul. D'autres questions à la rédaction demain, 9h10 heure de Paris, 8h10 en temps universel. Vous nous appelez tout au long de la journée. Le standard reste ouvert, 01 53 92 64 40. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour